Nahum, chapitre 2. Chapitre 2, il est dit « Voici sur les montagnes les pieds des messagers qui annoncent la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs ceps. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ses vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait, Ninive est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau, les voilà qui fuient. Arrêtez, mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage de lionçons, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y ait personne pour les troubler? Le lion déchiré pour ses petits, étranglé pour ses lionnes, il remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Alors, c'est un texte pas évident, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça peut bien m'apporter à moi dans la vie chrétienne, puisqu'on parle là d'une bataille, tout simplement, hein. Et on avait vu la dernière fois que Dieu va s'adresser au travers du prophète Nahum contre Ninive. Ninive a été avertie 150 ans avant avec Jonas, et cette fois elle s'était repentie. Mais 150 ans après, peut-être parce que les parents n'ont pas transmis la crainte de Dieu, ça c'est moi qui le dis, mais certainement, il y a quand même une raison quelque part. Cette fois, on avait vu que Ninive résistait complètement à Dieu et ne voulait pas entendre parler de Dieu. On avait vu aussi que Ninive était d'une forte puissance, mais qui était terrible et qui faisait beaucoup de mal autour d'elle. Et c'était le moment maintenant du jugement. Et justement, le chapitre 2, ça décrit en détail, on pourrait dire, ce jugement de Ninive. La dernière fois, on avait vu qu'on est si petit des fois devant Dieu. Hein, on se croit fort par notre orgueil, et surtout Ninive avec ses grosses murailles. Et personne ne pouvait les franchir, sauf Dieu. Et on va voir comment il va faire. Mais cette fois, on va voir qu'on est si faible des fois devant Dieu. Peut-être que ça ne nous concerne pas ce qui s'est passé à Ninive, mais des fois, nous-mêmes, il faut qu'on se rende compte qui nous sommes devant Dieu. Et c'est, je pense, ce que ce texte peut nous apprendre. Nahum avait décrit la dernière fois la majesté de Dieu, sa grandeur, hein, son amour, sa justice et sa puissance. Et tout ça, c'était pour nous, en tant que chrétiens aussi. Et il continue justement, mais là, il va le placer dans le cadre du jugement de Ninive. Et ça va être un véritable carnage, tout simplement, comme on vient de lire. Mais ça démontre surtout, ce passage, la grandeur de Dieu, sa puissance et l'incapacité à l'homme de résister tout simplement à Dieu. Parce que peut-être nous, en tant que chrétiens, des fois on résiste encore à Dieu, et ben ça ne sert à rien des fois, parce que Dieu est plus fort que nous et on aura beau résister, à un moment Dieu de toute façon aura la victoire sur nous. Première chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est qu'on est si faible devant la sentence de Dieu. Alors pas nous forcément, mais en tout cas ce peuple d'Assyrie, hein. Et dit, on va aller au fur et à mesure des versets, hein, le destructeur arrive sur Ninive. Ça y est, maintenant Dieu a lancé sa sentence et cette ville va être attaquée. Alors, on pense à deux rois. Alors, ça sera peut-être des idées pour vos prochains enfants. Hein. Il y a Syaxar, qui est très facile à prononcer, qui était roi des Mèdes. Et puis Nabopolassar, qui était le roi de Babylone. Très joli, non, ça pour un enfant. Hein. Mon petit Nabo. Hein. Deux rois qui vont attaquer cette ville. Hein, Dieu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Et au verset 2, il dit « Garde, en s'adressant à Ninive, garde tes forteresses. » On se souvient que les forteresses de Ninive étaient imprenables, hein, tellement hautes et il y en avait tellement de tours autour que c'était imprenable. Mais Dieu dit à Ninive, forme d'ironie, « Garde bien tes petites forteresses, tu vas voir, ça ne va pas durer longtemps. » Et effectivement, ces murs vont tomber alors qu'ils étaient réputés pour être solides, costauds et imprenables. Mais devant Dieu, il fait juste ça et tout s'écroule, tout simplement. Malgré toute la force, malgré tout l'orgueil qu'avait Ninive de vouloir s'opposer à Dieu, à un moment, Dieu décide que c'est fini et Ninive va devoir tout simplement céder devant Dieu. C'est pour ça que je dis, alors on le sait au fond de nous, mais des fois on s'oppose vraiment à Dieu, mais à un moment Dieu aura de toute façon la victoire. On perd beaucoup de temps, j'ai l'impression, dans nos vies à s'opposer tout simplement contre Dieu. Alors là on est dans le carnage, hein, mais là il le mérite aussi. Mais peut-être dans notre vie spirituelle nous pouvons aussi nous opposer. Et au lieu de nous opposer, au lieu de perdre du temps, ben, c'est bon tout simplement. Hein, parce que nos murailles à nous, dans notre cœur, elles sont faciles à prendre, très faciles par Dieu. Il dit au verset 3, « Dieu rétablit la gloire de Jacob et d'Israël. » Jusqu'à présent, il y a eu des années d'oppression de la part de Ninive, mais ils n'ont pas attaqué que Israël, hein, mais ils ont attaqué tous les peuples autour. Mais Dieu défend son peuple là, et cette fois, il dit à Israël, voilà, ce peuple va être puni. C'est plutôt Juda, pas Israël, Juda. Voit ce peuple qui était tellement fort, maintenant il va disparaître et on n'en entendra plus jamais parler. Dans l'épreuve, Dieu voit. Que ce soit dans nos épreuves, que ce soit dans l'épreuve du monde, des nations, Dieu voit. On a l'impression des fois de se dire, mais où il est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans nos vies ou peut-être dans politique, dans les nations? Mais Dieu voit. Dieu sait. Il sait absolument tout déjà. Il sait déjà la fin. Nous, on ne connaît rien du tout. Mais il a son temps. Et heureusement, des fois, vous savez, il aurait pu aller attaquer Ninive tout de suite après Jonas, hein, 10 minutes après, et puis c'était réglé. Et des fois, il pourrait aussi se dire, ben, il y en a marre de ces gens qui ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, et puis on va arrêter là, hein, je ne veux pas les appeler. Il y en a marre, des fois, de ces chrétiens qui ne veulent pas grandir, on va arrêter là. Fatigué, hein, pénible, non? Mais vous, vous avancez, donc ça va. Ça concerne les autres. Mais Dieu a son temps, et Dieu voit. Et ça, il faut qu'on le considère dans notre vie, mais si Dieu voit, si Dieu a son temps, à un moment, il agira. Pierre dit que Dieu patiente pour que le maximum se repente. C'est merveilleux. Si Dieu était venu en 1950, enfin si Jésus était venu en 1950, ce serait où? Ce serait pas sauvé pour la plupart. Non. Et s'il était venu encore plus avant, eh ben, il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient pas eu la chance de connaître le Seigneur. Dieu voit, Dieu prend son temps, mais à un moment, Dieu va agir aussi. Dieu me voit en tant que chrétien, il prend son temps avec moi, mais à un moment il agira aussi pour me faire avancer avec lui tout simplement, ou punir des fois. Il va justifier sa sentence, hein, parce que Dieu ne punit jamais quelqu'un sans l'avertir d'abord, et sans aucune raison. Dieu ne s'amuse pas avec nous. Hein, et cette sentence contre les Assyriens, il va dire qu'ils ont pillé, ils ont détruit, ils ont fait tellement de mal, et on avait vu comment ils faisaient ça la dernière fois, contre les peuples, qu'à ce moment-là, maintenant, c'est à toi d'être puni. Et il dit, ils ont pillé, détruit les ceps. Dans l'hébreu, le cep, c'est la branche, la brindille. Alors, il y a beaucoup d'explications, mais une brindille, c'est quelque chose qui se casse très facilement. C'est quelque chose de fragile, de faible. Et certainement que ces Assyriens si forts attaquaient les faibles, et c'est facile d'attaquer aussi les faibles. Maintenant, face à Dieu, ça rigole moins. Là, on rigole déjà moins. Il dit aussi, ils n'ont pas eu égard au peuple de Dieu. On avait vu qu'il y avait le roi de Babylone, si je me souviens bien, qui était venu et qui avait défié Dieu quelque part. Il est quand même grave, mais je ne sais pas s'il croyait vraiment Dieu pour faire ça, mais il a vraiment insulté Dieu devant tout le monde. Et forcément, Dieu n'apprécie pas ça du tout. Hein, et à un moment, Dieu va aussi se venger, mais selon sa vengeance, qui est juste, pas comme la nôtre, évidemment. Donc attention à notre manière des fois de traiter le peuple de Dieu. On pourrait le dire aujourd'hui, attention à vous qui traitez mal l'Église, parce que tous ces gens qui persécutent aujourd'hui l'Église vont devoir aussi rendre des comptes. Attention peut-être à notre manière aussi de regarder Israël, pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, hein. Mais ça reste le peuple de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et une bonne partie va se convertir quand Jésus va revenir, et ça reste toujours le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui est là en temps de grâce, et attention à ce que l'on fait à ce peuple de Dieu. Ça ne nous concerne pas nous, hein, mais peut-être à ces gens qui veulent nous faire du mal. Parce que Dieu voit. Et Dieu va aussi avoir une sentence à la fin des temps, parce que ça me rappelle ça aussi, Nahum, c'est que Dieu va prendre le temps et des milliers d'années pour avertir, proposer la bonne nouvelle, mais à la fin des temps, à Armageddon, ça sera fini. Jésus va poser ses pieds en Israël, et là, il va juger. Et si vous connaissez un peu, il va juger Israël d'un côté et il va juger aussi les nations. Par contre, il va juger les nations selon leur attitude qu'ils auront à l'égard, en fait, d'Israël. S'ils ont fait du mal, et beaucoup de nations pendant, si vous lisez un peu l'Apocalypse, hein, pendant la tribulation, beaucoup de nations vont s'opposer à Israël. Mais elles vont être jugées par Dieu ce jour-là. Hein, c'est dans Matthieu, Joël. Et bien plus tard, une fois que Jésus aura régné 1000 ans, que la terre sera détruite, il y aura ce qu'on appelle le grand trône blanc, où tous les gens qui n'ont pas accepté Christ vont ressusciter, juste pour entendre une sentence. Tu vas partir dans les temps de feu pour l'éternité. Il y aura des livres qui vont être ouverts. Dieu a certainement écrit tous les actes de ces gens-là, et la seule sentence, ça sera d'aller en enfer, mais personne en enfer pourra dire « je ne savais pas ». C'est ça le problème. Ils y vont de leur propre chef. C'est triste. Mais ce jugement de Nahum, qui a eu lieu, et c'est ça surtout qui est important, Dieu avertit, Dieu prend son temps, mais Dieu fait les choses. Et quand elle a dit qu'un jour Jésus reviendra, Jésus reviendra. Quand elle a dit qu'un jour l'enfer sera jeté dans les temps de feu, ces choses vont s'accomplir. C'est triste, quelque part, pour tous ceux qui vont refuser. Pour nous, c'est notre joie, parce que nous, on sera au ciel, transformé, nouveau corps. Ça va être merveilleux. Mais en même temps, on s'inquiète pour les autres, évidemment. Dieu a averti plusieurs fois Ninive. Hein. Ce n'est pas qu'une seule fois. Il est venu le rencontrer plusieurs fois. Mais Ninive, elle... Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, contre moi? Je suis tellement fort. Hein. Ces nations aujourd'hui qui disent exactement la même chose, la laïcité qui dit exactement la même chose, Dieu n'existe pas. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? Et moi, en tant que chrétien ou pas chrétien, est-ce que je résiste à Dieu? Est-ce que je me crois plus fort que Dieu? Deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on est si faible devant la souveraineté de Dieu en marche. On voit cette frayeur que Dieu va produire hein, au verset 4, et il parle de l'effroi de ses soldats. Alors, avec un peu d'imagination, imaginez la muraille, et puis les Mèdes et Babylone qui va attaquer cette muraille. Il dit les soldats de Babylone sont en rouge. Hein. Alors, il faut savoir que les Mèdes étaient habillés avec des tuniques pourpres. Donc, c'est ça pourquoi il parlait de rouge. Les boucliers, on pense qu'ils étaient couverts de cuivre, et avec le soleil, ça donnait l'impression que c'était rouge aussi. Mais ça avait surtout l'aspect du sang, parce qu'il semblerait que certains soldats et guerriers se revêtaient de pourpre pour montrer... Enfin, c'est là où ils étaient blessés, s'ils étaient en pourpre, on ne voyait pas leurs blessures. Donc ça effrayait l'autre, ils disaient, mais on a beau les blesser, il n'y a, rien qui se passe. Et donc ça effrayait tout simplement l'ennemi en face. Mais en même temps, je pense qu'il insiste, le prophète, sur le rouge, c'est simplement, bah, ça symbolise l'effroi, hein, le sang, ça symbolise la défaite tout simplement devant Dieu. Et ça rappelle aussi cette colère que Dieu un jour va balancer sur la terre hein, à la fin des temps. Et ces hommes qui vont maudire Dieu dans l'Apocalypse, parce qu'ils ont conscience que c'est Dieu qui va envoyer tous ces fléaux sur la terre, mais ils vont le maudire. Et Dieu va déverser tout simplement sa colère sur cette humanité. Dieu est en colère contre le pécheur. Aujourd'hui, le pécheur dit « Il est où Dieu ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, Dieu ? Il ne va rien faire. » Pourtant, Dieu reste en colère et il va le démontrer. Il l'a démontré là, mais il le démontrera aussi un jour envers tous ceux qui ne veulent pas se repentir et qui s'opposent à lui. Nous, en tant que chrétiens, cette colère, elle n'est plus là, puisque nous avons été réconciliés avec Dieu. Et donc, nous n'avons plus à craindre cette colère. Nous n'avons juste qu'à adorer notre Seigneur et à nous laisser appeler amis et serviteurs, tout simplement, parce que nous voulons le respecter. Parce que nous avons demandé pardon pour nos péchés, parce que nous n'avons pu nous opposer à lui, tout simplement. On est loin d'être parfait. Il y a encore du boulot, mais quand même, c'est déjà une belle étape dans la vie. Et on voit cette souveraineté de Dieu en action. Hein. Au verset 4, il dit « Au jour qu'il a fixé pour la bataille ». Des siècles avant, Dieu savait que c'est en 612 avant Jésus-Christ. Parce que la dernière fois, j'avais dit « après Jésus-Christ ». Merci de m'avoir repris. Avant Jésus-Christ, en 612, il savait que Ninive allait être détruite. Bien avant. Et c'est exactement au moment où Jésus va aussi revenir. C'est formidable. Dieu sait absolument tout. Dieu est souverain. Et quand lui a décidé une chose, la chose s'accomplit. Le monde entier va se liguer contre Jésus-Christ quand il va venir. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit, c'est fini. Ça sera fini. C'est terrible quand même. Hein. L'homme, avec la prétention qu'il a des fois de se dire, je vais pouvoir quand même encore me battre contre Dieu. Voilà. Nul peuple ne peut fuir le temps et la volonté de Dieu. Il vit comme si cela était possible, mais à un moment, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui dit stop, c'est fini. Heureusement qu'il le fait, peut-être même dans nos vies, parce qu'à un moment, il nous a touchés profondément pour qu'on fléchisse les genoux, non ? Et merci Seigneur d'avoir fait, parce qu'on serait où aujourd'hui s'il n'avait pas un peu tapé sur la tête d'Emmanuel à un moment pour que j'arrête mes bêtises, hein ? Et pour vous aussi. Eh oui, merci Seigneur, parce que tu es souverain et qu'à un moment tu nous reprends, et heureusement qu'on peut te demander pardon et se repentir. Mais eux ne le voulaient pas. Puis il y a les lances qui sont agitées, hein. Ça me faisait penser souvent aux films de guerre, pour ceux qui aiment les films de guerre, où on voit juste avant la bataille, ouais, ça crie comme des malades là, hein. Puis après, ils disent en fait on est prêt pour la bataille, on va attaquer tout simplement. Vous pouvez imaginer la tension qu'il devait y avoir à ce moment-là. Au verset 5, il parle de la bataille, hein. Les chars des Mèdes maintenant vont attaquer Ninive, il les compare à des flambeaux, à des éclairs. On imagine qu'ils allaient extrêmement vite, hein, et c'est comme ça qu'il les voit en tout cas. Alors lui, il fait avec les images qu'il a. Hein. Aujourd'hui, on ne dirait pas de la même manière, mais les flambeaux, des éclairs, et ils allaient se précipiter sur Ninive. Et le peuple est complètement effrayé derrière ces murailles. Effrayé par l'ennemi, mais peut-être à ce moment-là, beaucoup se sont souvenus que Dieu les avait avertis. Et que maintenant, c'était trop tard. Hein. Ça doit être terrible de prendre conscience que c'est trop tard. Et souvent, c'est quand on arrive en enfer, on se dit, mince, je savais, on me l'a dit, mais là, je ne peux plus rien faire. Et l'enfer, c'est regretter tout pendant l'éternité d'avoir su et de ne pas avoir obéi à l'appel au salut de la part de Dieu et à ce merveilleux don qu'il nous a fait. Je crois que c'est ça le pire. J'aurais pu, je n'ai pas fait, hein, dans cette histoire de Lazare et l'homme riche va en enfer et il va avoir chaud et il va demander à Abraham d'aller prévenir les vivants, parce que lui, il a compris qu'il ne pouvait plus rien faire. Mais Abraham va dire, mais ils ont la parole, ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Voilà. On les a avertis, ils sont responsables. Mais là, ce monde est effrayé. Et le roi de Ninive, hein, verset 6, tente d'organiser un petit peu la défense. On essaie d'imaginer ce qu'ils faisaient. Mais les hommes chancellent de peur. Hein, et alors on les voit se hâter vers les murailles, certainement pour défendre face à cet ennemi qui est en train de venir très rapidement. Et ces vaillants guerriers qu'on avait décrits dans le chapitre 1, qui étaient tellement fiers et capables de faire des choses terribles, ça rigole moins. Mmh. Ouais. Des fois, on se croit tellement fort, tellement puissant, mais quand Dieu débarque, les cœurs sont totalement brisés et on ne peut plus rien faire. Et c'est terrible, hein, parce que quand on est tellement haut et qu'il faut descendre tellement bas, il vaut mieux pas être trop haut, parce que la chute, elle est moins grave. Il y a un verset qui le dit, il me semble, dans l'Ecclésiaste ou Proverbe, plus on est haut, plus dur est la chute. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester humble. Mais eux n'étaient absolument pas humbles. Et là, à mon avis, les cœurs étaient totalement transpercés. Nous, on peut tirer des leçons. Bon, on ne va pas faire la guerre, hein, c'est pas ce qu'on est en train de se dire. Mais ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous, c'est que la puissance de Dieu ne peut rien contre la volonté de Dieu. Rien. C'est valable dans mon quotidien, ça. Ah, ce collègue qui me saoule, ce patron qui est dit dur. Oui, là, il a l'impression d'être fort, mais contre Dieu, il ne peut rien. Et puis, si je prie pour lui à un moment, ben, il va peut-être se convertir. Là, on aura gagné. Hein. Parce qu'il va changer. Il va devenir un bon patron ou un bon collègue avec moi. Mais souvent, on préfère taper sur le collègue plutôt que prier pour lui. C'est dommage. Ou râler ou se plaindre. Mais la puissance de l'homme ne peut rien contre la volonté de Dieu. Et ça devrait nous pousser, même nous, en tant que chrétiens encore, à être humbles devant Dieu. On se croit des fois puissants, capables de défier Dieu, inconsciemment, consciemment, on ne peut rien faire contre Dieu. Bon, Dieu nous aime et plein de miséricorde et nous reprend comme un père nous reprend. Mais ceux qui s'opposent vraiment, là, ils rigolent beaucoup moins. Deuxième leçon, c'est que l'avenir du monde fait partie des décrets de Dieu. Dieu a décrété un tas de choses au départ de la création et tout doucement, les choses se mettent en place. Et quand il a décrété que Jésus reviendra, Jésus reviendra. Et le monde entier pourra dire ce qu'il voudra. Il y en a qui vont même dire devant Jésus, tu n'existes pas. Bah oui, mais il est en face de vous. Hein. Non, mais c'est une illusion, à mon avis. Enfin, je ne sais pas s'ils vont dire ça comme ça, mais on est des fois capable, tellement dans notre orgueil, de rejeter la vérité et les évidences même, à cause de notre orgueil. Mais le monde connaîtra les décrets de Dieu, et cette parole de Dieu va s'accomplir à la lettre. Il y a énormément de prophéties qui se sont déjà accomplies, tellement. Mais il y en a encore beaucoup qui doivent s'accomplir. Donc ce n'est pas fini. Et si celles qui se sont accomplies à la lettre, j'imagine que celles qui doivent venir vont aussi s'accomplir à la lettre. Et quand on connaît ces prophéties, c'est terrible. C'est terrible pour l'humanité. Puis une leçon encore, l'effroi de Ninive, hein, ben, cet effroi, ben, les hommes vont la connaître, je pense, encore pire peut-être que ce que Ninive a vécu là quand Jésus va revenir. Parce que la colère de Dieu dans l'Apocalypse, hein, si vous avez eu le temps de lire, quand elle se déverse, Dieu ne rigole pas. Ce n'est pas un petit tremblement de terre, hein, c'est des étoiles qui tombent sur la terre. C'est des choses terribles qui vont arriver à la terre. Et les hommes là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont encore maudire plus Dieu au lieu de se repentir.
Dieu, des fois, nous touche, peut-être nous punit. On a deux réactions. Quand il nous touche, soit on se repent, parce qu'il a raison, soit on s'endurcit. Et là, on peut s'endurcir à un tel point comme Pharaon, hein, qui s'était tellement endurci. Ben, quand vous endurcissez, Dieu vous laisse vous endurcir tout simplement et vous débrouillez après. Vaut mieux être humble devant lui. Et ces gens-là vont connaître la colère de Dieu, vont connaître sa punition à la fin des temps. Et à nous de prier, peut-être aujourd'hui, pour ces gens, parce qu'ils peuvent peut-être encore se convertir. Hein. Mais il faut leur rappeler que ces choses-là vont s'accomplir comme beaucoup de choses se sont déjà accomplies sur la terre. Il vaut mieux être faible et avoir Dieu, même si on prend peut-être des coups, plutôt d'être fort et d'être l'ennemi de Dieu. Parce que quand on est ennemi de Dieu, position qu'on avait avant d'être converti, hein, puisque Paul le dit, quand on n'est pas converti, on est ennemi de Dieu. Mais quand on est ennemi, alors je veux dire frontalement, parce que je pense que techniquement on ne le pensait pas dans notre cœur, hein, ou on ne le savait pas, mais quand on veut vraiment être ennemi de Dieu comme le diable, par exemple, lui, il est clairement, j'ai décidé d'être. Il y a des hommes qui sont aussi comme ça. Alors là, moi je me méfierais. C'est un peu curieux de se dire, que je pense au diable là, peut-être, se dire, je sais très bien qu'il est plus fort que moi, mais je vais quand même l'embêter. Je vais quand même chuter. Et l'homme, des fois, est pareil, il sait très bien qu'à la fin, il va tout perdre, mais il est capable quand même, par orgueil et par mille raisons, d'aller s'opposer à Dieu. Je parle aussi du chrétien, là, hein, pas seulement du non-croyant. Troisième chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est si faible devant la punition de Dieu. Quand Dieu a décidé de punir, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu va agir. Au verset 7, il est dit « Ninive est prise et le palais s'écroule ». On imagine que ces soldats sont arrivés, les autres ont défendu, maintenant la muraille va tout simplement tomber. Il parle des portes des fleuves qui sont ouvertes. Alors, il y a beaucoup d'interprétations pour la manière dont les murailles vont tomber. Je pense qu'une des meilleures, bon, à peu près, hein, c'est... D'abord, le roi Syaxar va assiéger la ville, hein, il va attaquer, mais Ninive va, dans un premier temps, repousser l'ennemi. Mais eux, ils étaient tellement vigilants, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont faire la fête, ils vont boire comme des malades, et puis le roi va revenir attaquer. Et là, cette fois, ils vont se faire avoir. Attendez, vous avez un ennemi devant vous, et vous lâchez la défense comme ça? C'est ridicule. Ou alors, c'est vraiment de l'orgueil, quelque part, de se dire... Hein. Ça me rappelle le siège dans 70 de Jérusalem. Il faut savoir que les Juifs se chamaillaient, parce qu'il y avait quatre groupes entre eux, ils se faisaient la guerre entre eux pendant que les Romains allaient débarquer. Normalement, on est unis dans ces moments-là. Maintenant, l'homme est capable de n'importe quoi. Et donc, une fois que Syaxar va attaquer, je pense qu'après il y a Nabopolassar, on va l'appeler comme ça, il va attaquer, le siège va durer pendant 3 ans, vous imaginez 3 ans de guerre. Hein. Et on pense qu'il y a une grosse pluie à un moment, et ça, ça vient de Dieu. Et cette grosse pluie va faire tout simplement tomber la muraille. C'est pas l'ennemi qui a vraiment vaincu là, c'est Dieu. Alors il y a d'autres explications, mais je pense que c'est une des meilleures explications. Après, vous pouvez choisir, écrire des livres dessus, comme vous voulez. Hein. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que Dieu a permis que cette muraille tombe à un moment, et comme il dit dans le texte, le roi a perdu. Le roi a perdu sa réputation, le roi doit s'incliner devant l'invasion. Celui qui était tellement grand, qui se prenait pour je ne sais pas quoi, il est tout petit devant Dieu. Et ça, ça doit être difficile pour un roi. Alors nous, on n'est pas roi. Hein. Bon, quand on tombe, ça nous fait déjà mal, parce qu'on a un petit orgueil quand même. Et vous imaginez quand vous étiez ce roi-là, tout puissant, et qui d'un seul coup est écrasé, qui n'est plus rien du tout. Je n'aimerais pas être à sa place. Verset 8, il dit « Sans effet, Ninive est mise à nu, Dieu a la victoire, le peuple va être déporté, les servantes vont pleurer sur la prise de Ninive. » Ah oui, parce que ce n'est pas que la faute du roi, hein. On l'avait vu la dernière fois, c'est une faute commune, c'est tout le peuple qui était en accord avec ce roi, qui se prenait pour je ne sais pas quoi. Mais ils vont être déportés, ils vont être loin, ils vont être tués pour la plupart, hein. Et finalement ce que les Assyriens ont fait aux autres, et ben maintenant ils vont le vivre. Il y a un beau verset qui dit... Ouais, c'est Jésus qui le disait, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. En d'autres termes, aimez votre prochain, faites du bien à votre prochain, parce que c'est ce que vous voudriez qu'on vous fasse aussi à vous. Et voilà, les hommes croient
On peut regarder globalement sur l'histoire, hein, il y a toujours des grandes nations qui se lèvent, il y a des empires qui se lèvent, mais combien de temps ça dure? Il y a un empire qui est resté pendant des milliers d'années? Aucun. Ça passe. La France passera peut-être aussi un jour. L'Europe va passer, ça c'est sûr, puisque Armageddon, c'est l'Europe qui va s'opposer à Christ, tout simplement. Tout passe à un moment, mais la réflexion, ça serait pour nous, en tant que chrétiens, c'est que si tout passe, pourquoi s'obstiner dans le péché, dans le fait de ne pas vouloir grandir avec Dieu? Pourquoi s'obstiner, puisque de toute façon, ça va passer? Autant se laisser faire par Dieu, autant céder devant Dieu. Peut-être que si Ninive s'était repentie, ben, elle ne serait pas détruite, tout simplement. Il avait fait miséricorde la première fois, peut-être qu'il l'aurait fait une deuxième fois. Dieu s'est pardonné beaucoup de choses. Ninive n'est plus qu'un souvenir, verset 9. Jadis, comme il dit, c'était un grand réservoir d'eau, plein d'eau. Ça rappelle tout simplement la prospérité de Ninive. Hein. C'était une belle ville, j'imagine en tout cas. Et voilà à quoi elle est réduite maintenant. Quand l'orgueil de la prospérité laisse place maintenant à la disette. Hein. C'est triste. Et en si peu de temps. Hier, on était riches, on était les plus forts, on était les plus orgueilleux du monde. Aujourd'hui, on est mort. Plus rien. Bon, ça a mis 3 ans, mais on comprend l'idée. Ça passe tellement vite quand Dieu agit. Et ça va aller très vite aussi des fois dans nos vies, parfois. Et quand Jésus va arriver, ça va aller tellement vite. Les gens, vous imaginez quand Jésus va poser les pieds à Jérusalem? Facebook, la télé, France Info, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller tellement vite. Et puis les nations vont attaquer Jésus-Christ à ce moment-là. Il y aura une guerre pas possible, certainement nucléaire, parce que Zacharie décrit des choses qui semblent être nucléaires. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va arriver. Ça va aller tellement vite. Tellement vite. Eh oui, les gens n'auront pas le temps. Mais là, cet orgueil qui est écrasé, on voit des spectateurs autour, hein, on a l'impression qu'ils regardent la chute de Ninive, mais personne ne se retourne, dit Nahum. Bien fait pour eux. Bah, vous avez fait du mal, bah, maintenant vous avez ce que vous méritiez. Je pense même que quand on ne se retourne pas, ces peuples se disent maintenant, on ne va plus être attaqué, on va avoir un moment de paix. Bon, après, ces mêmes peuples vont s'attaquer entre eux. Hein. De toute façon, l'homme, il est comme ça. Mais personne n'a pitié pour cette ville-là, comme Christ n'aura pas pitié pour les nations qui s'opposent à lui. Aucune pitié. Dieu est plein d'amour, mais Dieu est aussi juste. Et l'amour sans la justice, ça ne marche pas. Dieu nous aime, nous, mais est juste aussi avec nous. Et quand il nous punit, c'est parce qu'il est juste, tout simplement, avec nous. Et à un moment, Dieu jugera aussi ce monde. Et ben, en tant que chrétien, c'est vrai qu'on est triste pour nos amis, on est triste pour nos familles, peut-être. Mais quand on sera transformé à l'image de Dieu, totalement, on sera plus triste. On dira que c'est pure justice. Alors pour nous, ça nous paraît un peu bizarre dans la tête là aujourd'hui, parce qu'on a des sentiments, on a des émotions. Mais est-ce que ce que fera Dieu, c'est juste ou pas? Ben oui, même pour ma famille, mes enfants. Ben oui, c'est triste. Mais on peut les avertir encore aujourd'hui. On ne sera pas indifférent, je pense, mais en tout cas, on ne dira pas à Dieu que tu es injuste. Tu as pris le temps pour avertir tout le monde. Personne ne va regretter cette ville cruelle. Et oui, la gloire, c'est quelque chose d'éphémère. Le monde court après la gloire et ça passe. Vous savez, les superstars, des fois qu'on voit à la télé, hein, allez voir dans quel état ils sont après la gloire. Et il y en a qui tombent tellement bas, drogue, suicide, etc. La gloire, c'est éphémère. Vouloir être devant les autres, ça ne sert à rien. Versets 10 à 11, Ninive est pillée. On avait vu tout à l'heure, hein, toutes les richesses. Et j'imagine qu'il devait y avoir un paquet de trésors là-dedans, après tout ce qu'ils ont fait, tout va être raflé par l'ennemi. Ils ont mis tellement de temps à accumuler toutes ces richesses, et en un instant, tout ça s'est perdu. Ça me rappelle un peu les crashs de la bourse, hein. Il y en a eu deux, assez importants. Tout ce temps que des fois les hommes essaient d'accumuler, de courir pour s'enrichir, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est valable pour nous en tant que chrétiens aussi. On passe peut-être notre vie à vouloir s'enrichir sans être milliardaire. Hein. Il n'y a pas un milliardaire aussi. Non, pas encore, ça viendra peut-être. Mais des fois, même sans devenir milliardaire, on court après des choses qui finalement, au bout de notre vie, vont disparaître. Il n'y a plus rien. Peut-être même avant notre vie, parce que peut-être Dieu veut nous rappeler qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ces choses-là. Hein. Et on court, et ça nous, hein, ça brille devant nous. Mais ça passe, tout simplement. Richesse et orgueil ne protègent pas l'homme. C'est ce qu'apprend tout simplement Nahum, en tout cas pour moi. Être riche, être tout puissant, avoir de l'orgueil, ça ne protège pas l'homme de Dieu. Impossible. Donc vaut mieux s'humilier devant Dieu, vaut mieux se confier en Dieu, plutôt que s'opposer tout simplement à lui. Le peuple d'Inaüm va souffrir à la vue de ce spectacle. Les cœurs vont être abattus. Vous pouvez imaginer, les genoux chancellent. Vous pouvez imaginer l'horreur du spectacle, parce que les Mèdes et Babylone, ils n'étaient pas des tendres non plus. On parle de Ninive, mais eux, ils faisaient aussi des choses terribles. Et donc le massacre qui a dû avoir lieu à ce moment-là, ça devait être absolument terrible. Tout comme quand vous lisez dans Apocalypse, à la fin, quand Jésus va arriver, ça va être aussi un terrible massacre. Mais là, ça va être au niveau mondial. Lisez Apocalypse, c'est plus simple, vous comprendrez mieux. Mais ça va être un massacre. Tous ces gens qui vont mourir parce qu'ils s'opposent à Dieu, parce qu'ils préféraient se confier dans des dieux à l'époque, aujourd'hui on a d'autres formes de dieux, parce qu'ils se confient dans leur puissance, où on a l'arme nucléaire, parce qu'on se confie dans nos richesses, parce qu'on est une banque, je ne sais pas quoi. À un moment, tout ça va disparaître. Tout ça, c'est faux finalement devant Dieu. Et ce qui est faux ne protège pas devant Dieu. C'est ce qui est vrai. C'est-à-dire, obéir à Dieu, ça nous protège de tout le mal que Dieu va faire plus tard. Mais c'est la tragédie de notre monde, parce qu'il se confie en lui-même, et quelque part, sans le savoir, Satan, dans l'ombre, tranquillement, se dit « Bien fait pour eux, je vais les avoir. » Et oui, et quand ils vont être en enfer, et quand ils vont voir Satan, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. On a failli se faire avoir aussi. Et ouais. Satan n'existe plus de toute façon aujourd'hui, donc ça va. C'est la meilleure stratégie qu'il a fait. Je n'existe plus, donc plus personne croit en moi. Mais nous, on a la chance que le Seigneur nous a rattrapés dans nos tragédies personnelles, même si ce n'était pas forcément grave. Mais toute vie est tragique à partir du moment qu'on est ennemi de Dieu ou qu'on s'oppose à Dieu. Dieu nous a rattrapés et merci Seigneur de nous avoir laissé la chance de pouvoir nous convertir, changer de vie et d'avoir une espérance. Et de ne pas être trompé surtout par le diable. Nul ne résiste à Dieu quand il a décrété ses plans. Personne ne peut rien faire. C'est terrible pour l'homme d'entendre ça, parce que nous, on veut se battre. On est tous comme ça, on aime se battre, on aime s'opposer, on est comme ça. Mais le chrétien a compris très bien que ça ne sert à rien. Dieu a dit, Dieu fait, un point c'est tout. Et ce n'est pas moi qui vais dire à Dieu, ouais, mais ce décret, on pourrait peut-être l'arranger, un peu moins. J'ai rien à dire devant Dieu, parce que c'est mon Dieu d'abord. Je lui fais confiance, il est juste, il est plein d'amour. Et ce qu'il fera, ça sera très bien, même si c'est douloureux. Puis une quatrième chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on est si faible devant la puissance de Dieu. Ça me paraît déjà même paradoxal ce que je dis là. La puissance de Dieu égale tout de suite faiblesse de l'homme. On ne peut pas dire le contraire. Versets 12 à 13, cette puissance des hommes qui va s'écrouler devant Dieu... Alors, il parle de repère de lion. On pense, certains, j'ai pas vu partout, mais que le lion était l'emblème, en fait, de Ninive. Je pense que derrière, elle parle aussi des rois en tant que lion. Ce roi qui faisait peur au monde entier, Nahum dit, mais il est où? Où sont ses princes, les héritiers? Où sont ses reines? Où sont ces gens qui gouvernaient? Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. Et Dieu de dire, Dieu en veut à Ninive. Il faudrait le relire et le méditer, ça. Dieu en veut à Ninive. Oh, c'est terrible. Dans Hébreux, il est dit, c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Alors, quand Dieu vraiment a quelqu'un en face de lui et qui devient son ennemi, comme à l'époque l'Égypte, alors là, ça devient grave. Dieu en veut à Ninive, et pourtant, il l'avait averti. Je pense qu'il en veut doublement. Jonas était venu, Nahum a aussi encore averti une deuxième fois, mais eux, ils n'ont pas voulu entendre. Maintenant, Dieu en veut à cette ville et à tous ces gens-là. Et ils sont tombés entre les mains de Dieu, et là, eh bien oui, Dieu ne rigole pas, Dieu a agi. Dieu a agi selon ce qu'il avait dit. Quand Dieu dit quelque chose, prophétise quelque chose, ça va s'accomplir, tout simplement. Terrible. Et une fin au verset 14 qui sera définitive, les chars vont être réduits en fumée, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armée. S'il n'y a plus d'armée, qu'est-ce que vous voulez faire? Avec un morceau de bois, de vous battre là. Il n'y a plus rien à faire, et il n'y a plus qu'à se laisser massacrer, tout simplement. Par l'ennemi. L'épée va dévorer le lionceau. Alors certains pensent qu'il s'agit là des princes, peut-être. Il n'y aura plus aucun descendant, tout simplement, pour le roi. Et s'il n'y a plus de descendant, il n'y a plus rien, tout simplement. Il y en a qui pensent qu'ils parlent plutôt des guerriers, mais plus de guerriers, plus rien non plus. On ne peut plus défendre la ville, on ne peut plus la reconstruire non plus. Elle dit « J'arracherai du pays ta proie ». Alors là, il y a beaucoup d'interprétations, mais certains pensent que la proie, c'est-à-dire tout ce que Ninive avait engrangé, et des prisonniers, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves, donc tous ces gens-là vont pouvoir retrouver leur liberté, ou, je pense, vont plutôt accompagner Babylone et les Mèdes, vont devenir leurs esclaves. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. D'autres parlent plutôt de l'avidité de Ninive, qui va maintenant finalement être redonnée. Tout ce qu'ils ont gagné va être redonné tout simplement à l'ennemi. Et ils disent surtout quelque chose de terrible, on n'entendra plus la voix de ses messagers. Ninive, c'est quoi? Et on a mis beaucoup de temps à retrouver Ninive. On n'est pas sûr encore que ce soit vraiment là. Mais on n'a jamais plus entendu parler de Ninive. C'est terrible. Mais Dieu avait dit, change. Tu peux changer encore. Tu peux? Ben non, j'ai pas voulu écouter. Ben Dieu a agi tout simplement. On peut tirer des leçons dans ce chapitre 2 pour nous. D'abord, se dire que le méchant a déjà perdu. Des fois, on est désespéré par les méchants, parce que quand on regarde, on a l'impression qu'ils gagnent toujours. Daesh, tout ça. Ah si, on a l'impression. Mais au fond, ils ont déjà perdu, c'est juste une question de temps. On ne doit pas craindre l'ennemi, nous dit Jésus, normalement. On ne doit pas craindre ce qu'il peut faire à notre corps, parce qu'il ne peut rien faire à notre âme. Mais l'ennemi dure un temps, par contre, Dieu, lui, est éternel. C'est toute la différence. L'ennemi peut être fier de ce qu'il est en train de faire pendant un certain temps, mais ça ne va pas durer. Donc à nous d'être patients des fois, prendre le temps, mais avoir cette idée aussi que ce n'est pas une fatalité parce que Dieu, à un moment, va agir. Il y a des membres de Daesh qui se convertissent. C'est beau. C'est arrivé. Vaut mieux craindre Dieu plutôt que ses ennemis-là. Parce que si mon Dieu, et je le connais tout puissant, je sais que lui, à un moment, va agir. Il le fait en son temps, et son temps est juste. On aimerait qu'il tombe sur nos ennemis tout de suite, juste le lendemain, comme ça c'est réglé, et nous on est bien. Mais comme ça. Mais Dieu prend son temps, on l'a vu, parce qu'il veut aussi que l'autre en face change d'attitude. Nous on veut punir l'autre, et Dieu veut qu'il change, et il prend son temps, tout simplement. À nous d'avoir aussi cette même attitude, et justement de prier pour ces personnes qui nous font des fois du mal, prier pour les ennemis. Mais en Dieu, on peut se confier et trouver le salut, justement, et même si on est attaqué, même si on est embêté par des gens. Deuxième leçon, c'est qu'il y a des mauvais protecteurs, où il y a des choses qui ne protègent pas l'homme. Et c'est ce que nous montre encore bon, toute la Bible même, on pourrait dire. La quête de puissance, la quête de richesse, tout ça, ça apporte finalement qu'au bout que des malheurs. Toucher 1 million d'euros du jour au lendemain, la plupart des gens à qui ça arrive, pète un plomb. Bon, après, quand vous êtes milliardaire depuis petit, ça va. Vous avez l'habitude d'aller en jet, etc. Mais quand vous étiez ouvrier et d'un coup devenez riche, ça... J'aimerais bien quand même, ça m'arrive juste là. Non. Pour l'Église, évidemment. Pour l'Église, évidemment. Non. Ce qui est formidable, c'est que nous, on a des solutions toutes tracées, faciles, etc. Par contre, Dieu va faire des choses qui sont complètement... On n'aurait même pas imaginé. Si un jour, on doit être propriétaire de ce bâtiment, je ne peux même pas imaginer comment ça va arriver. Vous, vous y arrivez? Mais peut-être Dieu le veut déjà, et Dieu a déjà peut-être tout prévu. Ou ailleurs, je ne sais pas. On verra bien. Mais ces puissances, toutes ces choses que l'homme cherche avidement, là finalement, ça ne lui porte que malheur. C'est mieux de chercher Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu, avant toute chose. Et cette confiance en Dieu est bien préférable à toute cette puissance, toute cette science aujourd'hui qu'on nous balance, toute cette richesse, toute cette politique. Moi, je préfère me confier en Dieu, même si des fois, je ne le vois pas agir, même si il est lent des fois. Il pourrait aller un peu plus vite. J'aimerais bien qu'il vienne plus vite. Mais je préfère avoir confiance en lui parce que c'est lui, de toute façon, qui est vainqueur à la fin. Une troisième chose, c'est perdu. Alors là, c'est des gens qui ont été perdus à un moment, mais il y aura énormément plus de gens qui vont être perdus à la fin des temps quand Jésus va revenir. Ces gens de Ninive rappellent justement le jugement dernier. Dieu avertit encore aujourd'hui les pécheurs. Dieu laisse un temps de grâce où on peut saisir le don de Christ. Et c'est très bien ce que tu as dit tout à l'heure. Ça rejoint à nous d'évangéliser, à nous d'aller annoncer l'évangile et la possibilité de ne plus être ennemi de Dieu parce qu'à un moment, sa patience s'arrêtera. Pas forcément pour toute l'humanité, mais pour moi. Parce que moi, je vais mourir, mais je n'ai pas voulu tout simplement me soumettre à Dieu. Mon orgueil, ma richesse, mes idoles, ma politique, mon raisonnement, fini devant Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir tout cela. Donc à nous de prendre le temps de les avertir. Et on a chacun notre champ, là où Dieu nous a placés. C'est là où nous devons avertir, être des témoins, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais avertir comme Nahum, comme Jonas l'a fait à l'époque. Bon, Jonas, peut-être pas comme Jonas, parce que lui, il voulait plutôt que la ville soit détruite. Il n'avait pas très bien compris. Mais il a quand même eu le courage d'avertir une ville qui était quand même terrible. Allez, en Corée du Nord, comme je dis, Dieu va vous détruire. Ça ne va pas durer longtemps, à mon avis. Vous allez vite vous faire choper. Mais lui, il l'a fait. Mais peut-être nous, des fois, nos collègues, tous ces gens qui se moquent de nous, ça nous fait peur. C'est vrai que c'est pas marrant de se faire insulter ou moquer. Mais il faut le faire parce que qui sait, peut-être celui qui se moque aujourd'hui, demain va se convertir, va venir à l'église, va se faire baptiser. Qui sait ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais il veut aussi que je sois un instrument entre ses mains. Dieu a déjà remporté la victoire. Ça fait du bien, non? Non? Ouais, ça vous parle pas trop, hein? Ça devrait nous réjouir, finalement. C'est vrai que des fois, avec les pasteurs, on discutait mardi pendant la pastorale, on regarde le monde, surtout le monde évangélique, combien il devient n'importe quoi. Et je dis, oui, ok, mais c'était écrit tout ça, non? Donc ces choses sont en train de se réaliser, donc moi je suis en train de me réjouir, parce que non seulement la Bible dit vrai, mais en plus ça veut dire que Christ est bientôt là. Il n'a jamais été aussi près, d'ailleurs. Donc oui, on est désespéré par le monde, mais en même temps, on devrait être content, parce que tout ça c'est vrai, et que Dieu va bientôt envoyer son Fils. Et il va remporter la victoire. À quoi bon se mentir? À quoi bon raisonner? À quoi bon lutter? C'est ce que Néhémie aurait dû comprendre. Peut-être au moment où tout s'est écroulé, ils ont dû peut-être réfléchir, enfin, se dire, tiens, il y avait un prophète qui nous avait avertis, mais on ne l'a pas écouté. Ils ont peut-être dû réfléchir à ce moment-là, ou dans leur orgueil, ils sont allés tout simplement mourir. Mais Dieu aura la victoire au bout. Pour terminer, à l'exemple de Ninive, considérons notre faiblesse devant Dieu. On ne va pas jeter la pierre sur Ninive, si on était à leur époque, on aurait peut-être fait pareil. Mais on peut considérer notre faiblesse devant Dieu. On n'est pas fort devant lui. Et on a de l'orgueil en tant que chrétien. On peut s'opposer à Christ. Je ne veux pas servir, je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas faire ci. On s'oppose à Christ. Mais on est tellement faible. Pourquoi se croire fort? Pourquoi défier Dieu d'une certaine manière? On le fait peut-être inconsciemment, mais parfois on le fait consciemment. Pourquoi faire cela alors que Dieu finalement aura la victoire? On perd du temps. On perd du temps. Humilions-nous plutôt. Prenons le temps de demander pardon à Dieu. Prenons le temps de laisser faire Dieu dans notre vie. Et vous allez voir, ça sera d'ailleurs meilleur, parce qu'on sera en paix, on sera en joie. L'homme et son orgueil, ses richesses, sa gloire, tout ce qu'il montre et met en avant va passer un jour. Et finalement, cette gloire de l'homme va être remplacée par la gloire de Jésus-Christ. Et elle sera plus pure, plus sainte, plus belle, plus juste, parfaite. Et en plus, on en est héritier. Chouette, non? Pensez à votre héritage. Pense pas à l'or ou à l'argent qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. Je pense à l'héritage de cette gloire. Moi, je pense que c'est surtout aussi l'idée de se dire Dieu, maintenant, a instauré sa gloire une fois pour toutes. On aimerait des fois que Jésus vienne donner une petite baffe à notre collègue là, qui se moque. Hein. Mais là, collègue, on pourrait lui dire mais regarde maintenant, Jésus, il est là. Ben, il est là, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, généralement, si on n'a pas accepté, il ne sera plus là pour dire grand-chose. Mais sa gloire resplendira une fois pour toutes. Considérons aussi ce grand Dieu qui nous aime. Parce que le Dieu qui a attaqué Ninive, c'est mon Dieu à moi. Je ne sais pas si on le saisit, la force, la puissance, la capacité, l'amour que Dieu a pour son peuple, parce que là, c'était vis-à-vis de Judas. Mais tous les jours, ce Dieu est avec moi, et tous les ennemis que j'ai en face de moi, ben, moi, je suis protégé par Dieu. Des fois, il permet qu'il nous attaque parce qu'on a besoin de grandir aussi. Ok. Mais Dieu me protège de tout cela. Mais il faut que je me souvienne qui est Dieu aussi pour accepter de traverser des fois les épreuves. Si j'ai un grand Dieu comme cela, waouh, il a renversé Ninive, c'est pas mon collègue de travail qui va venir m'embêter. On est bien d'accord. Mais on l'oublie bien souvent. Confions-nous en celui qui peut absolument tout, et alors c'est là où nous serons les vainqueurs. Parfois, on cherche la victoire d'une autre manière, comme les hommes peut-être, mais la vraie victoire, c'est de se confier tout simplement en Christ. Et là, peut-être pour le monde, nous ne sommes pas des gens victorieux, mais devant lui, on sera à la fin, de toute façon, victorieux. Et vaut mieux cette victoire que la victoire des hommes. Parce que la victoire avec Christ, elle est pour l'éternité. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et tout particulièrement pour ces petits prophètes dont on ne connaît pas trop le livre, bien souvent, mais qui parlent tellement dans nos vies, même s'il s'agissait un peu d'histoire. Mais Seigneur, tu démontres ta souveraineté, ta grandeur, ta majesté, ta patience aussi à l'égard de l'homme, une patience immense, un amour immense aussi, Seigneur, mais une justice implacable si on te résiste, Seigneur. Nous voulons prier pour ce monde qui, à l'exemple de Ninive, ben justement, s'oppose à toi. Nous prions pour nos familles, peut-être, qui s'opposent à toi, nos collègues, nos amis. voudrions tellement les voir un jour fléchir le genou devant toi, reconnaître qu'ils sont ennemis de Dieu, mais qu'ils peuvent devenir amis, Seigneur. Et comme on l'a dit ce matin, ben, fais de nous tes ouvriers, tes héros qui annoncent tout simplement l'Évangile. Après, évidemment, ils en font ce qu'ils voudront, mais c'est notre responsabilité, Seigneur. Et donne-nous ce zèle en nous souvenant qu'ils risquent gros et que tu nous as sauvés et qu'eux aussi peuvent être sauvés. En tout cas, bénis notre ville, bénis les environs, Seigneur, bénis cette église et que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ. Amen. Amen.